Charles Dickens, Les mortels dans la maison. C'est sans aucun des accessoires attribués aux revenants et sans être environné des prestiges habituels aux apparitions que j'ai fait pour la première fois connaissance avec la maison qui est le sujet de ce conte de Noël. Je la vis au grand jour, éclairée par un beau soleil. Il n'y avait ni vent, ni pluie, ni éclair, ni tonnerre, ni circonstances terribles ou extraordinaires d'aucune espèce pour ajouter à son effet. Bien plus, comme elle n'était qu'à 1 mille de la gare du chemin de fer, je m'y étais rendu directement, et pendant que j'attendais devant la maison et regardais le chemin par lequel j'étais venu, je vis le train de marchandises qui s'avançait doucement en suivant le remblai dans la vallée. Je ne dirai pas que toutes choses étaient tout à fait selon la règle ordinaire, parce que je me demande si n'importe quoi peut l'être, excepté pour des gens tout à fait vulgaires, et ma vanité me suggère ce doute. Mais je prendrai sur moi de dire que tout le monde aurait pu voir cette maison comme je la vis par cette belle matinée d'automne. Voici la manière dont elle se présenta à moi. Je me rendais à Londres venant du Nord et j'avais l'intention de m'arrêter en route pour visiter cette maison. Ma santé réclamant un séjour momentané à la campagne, l'un de mes amis qui le savait et qui, par hasard, était passé par là et l'avait vu, m'avait écrit pour me l'indiquer comme un endroit convenable. J'étais monté dans le train à minuit et je ne tardais pas à m'endormir, et lorsque je m'éveillai, en regardant par la croisée, j'aperçus une brillante aurore boréale. Je me rendormis et ne m'éveillai que lorsque le jour avait remplacé la nuit, avec le mécontentement ordinaire à celui qui s'imagine n'avoir pas dormi du tout. Je suis honteux de le dire, mais je crois que dans l'état des bêtements causés par cette impression, je me serais volontiers battu avec l'homme qui était en face de moi. Pendant toute la nuit, cet homme avait eu, comme tous ses vis-à-vis ont toujours, plusieurs jambes de trop et toutes trop longues. Ajoutez à cette conduite déraisonnable, qui était la seule qu'on pût attendre de lui, qu'il avait un crayon et un carnet et était perpétuellement occupé à écouter et à prendre des notes. Il m'avait semblé que ces notes agressives avaient rapport au chaos et au bruit du wagon. Je me serais résigné à le laisser faire, en supposant que c'était un ingénieur civil, s'il n'avait regardé droit au-dessus de ma tête toutes les fois qu'il écoutait. C'était un homme ayant des yeux à fleur de tête, une attitude embarrassée et dont toutes les manières m'étaient insupportables. La matinée était froide et triste, le soleil n'était pas encore levé. Après avoir contemplé la pâle lumière des feux des usines s'élevant dans cette partie du pays, le rideau d'épaisse fumée suspendu entre moi et les étoiles, et entre moi et le jour, je me tournai vers mon compagnon de voyage et lui dis « Je vous demande pardon, monsieur, mais remarquez-vous quelque chose d'extraordinaire en moi ?» Car vraiment, il me semblait qu'il prenait des notes sur ma casquette de voyage ou sur ma chevelure, avec une minutie qui allait jusqu'à l'impertinence. L'homme aux yeux à fleur de tête détourna son regard de moi, comme si le derrière de la voiture eût été à 100 mille de lui, et dit, avec un air de hauteur et de compassion pour mon insignifiance, « D'extraordinaire en vous, monsieur ?»« B. »« B, monsieur, lui dis-je en m'échauffant. »« Je n'ai rien à faire avec vous, monsieur, reprit-il. Permettez, je vous prie, que j'écoute. »« Oh !» Ce fut après une pause de quelques minutes qu'il prononça cette voyelle en prenant une note. Au premier moment, je fus alarmé, car c'était d'une position désagréable d'être en express avec un fou et de n'avoir aucune communication avec les surveillants du train. Mais je me consolai avec l'idée que ce monsieur pouvait être ce qu'on appelle généralement un esprit frappeur, et qu'il appartenait à cette secte pour laquelle j'ai un profond respect, mais dans laquelle je n'ai nulle confiance. J'allais le questionner à ce sujet quand il m'interrompit. « Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, dit-il d'un air dédaigneux, d'être trop au-dessus de l'humanité pour m'occuper de cela. J'ai passé la nuit, comme maintenant je passe tout mon temps, en relation avec les esprits. « Ah ! » répondis-je en ayant l'air de douter un peu. « Les conférences ont commencé ce soir, » reprit le monsieur en tournant les feuillets de son carnet, avec ce message « Les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. »« Profond, » dis-je, « mais est-ce absolument nouveau ? » Nouveau pour les esprits, répondit le gentleman. Je ne pus que répéter mon « ah » d'un ton de doute et je lui demandai s'il voulait bien me faire la grâce de me donner connaissance de sa dernière communication. « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras », dit le monsieur en lisant d'un ton solennel ce qu'il venait d'écrire. « Vraiment, je suis de la même opinion, mais y a-t-il un tu l'auras ?»« Oui, et je l'ai. » Puis il m'informa que l'esprit de Socrate avait fait cette révélation particulière pendant la soirée. « Mon ami, j'espère que vous vous portez très bien. Il y a deux personnes dans ce wagon. Comment vous portez-vous ? Il y a 17 479 esprits ici, seulement vous ne pouvez pas les voir. Pythagore est ici, il ne se permet pas de dire sa pensée, mais il espère que vous aimez à voyager. » Galilée aussi est entré inopinément avec son intelligence scientifique et a dit « Je suis heureux de vous voir, amico, come sta ? L'eau gèlera dès qu'il fera assez froid. Addio !» Pendant la nuit, les phénomènes suivants se sont produits. L'évêque Butler a insisté pour orthographier son nom, Bubler. En punition de cette faute contre l'orthographe, on l'a renvoyé comme étant de mauvaise humeur. John Milton, soupçonné de vouloir mystifier par parti pris, a nié être l'auteur du Paradis perdu et a présenté comme ayant fait ce poème deux messieurs inconnus dont l'un se nommait Grangers et l'autre Sandington. Et le prince Arthur, neveu du roi Jean d'Angleterre, s'est présenté comme étant assez confortablement installé dans la 7e région où il apprend à peindre sur le velours sous la direction de messieurs Trimmer et de Marie, reine d'Écosse. Si, par hasard, ce que j'écris venait à tomber sous les yeux du gentleman qui a eu l'obligeance de me raconter ces faits, j'espère qu'il m'excusera si j'avoue qu'à la vue du soleil levant et en contemplant l'ordre admirable de ce vaste univers, je m'impatientais de sa conversation. Je m'en impatientais à un tel point que je fus enchanté de descendre à la première station et d'échanger ses idées nuageuses et vaporeuses pour l'air libre du ciel. La matinée était devenue belle. Pendant que je marchais parmi les feuilles dorées et d'un brun rouge qui s'étaient déjà détachées des arbres, que je regardais autour de moi les merveilles de la création et réfléchissais aux lois invariables et harmonieuses par lesquelles elles sont soutenues, les relations spirites de ce gentleman me semblaient le plus pitoyable passe-temps de voyage que le monde eût jamais vu. Dans cette disposition d'esprit toute païenne, j'arrivai devant la maison et m'arrêtai pour l'examiner attentivement. C'était une maison solitaire qui se trouvait dans un jardin excessivement négligé, un petit carré ayant à peu près 2 ares. C'était une maison de l'époque de Georges II, aussi raide, aussi froide, aussi régulière qu'un admirateur sincère des 4 Georges eût pu raisonnablement la souhaiter. Elle était inhabitée, mais depuis 1 an ou 2, on l'avait réparée à bon marché pour la rendre habitable, je dis à bon marché, parce que les travaux avaient été faits d'une manière très superficielle, et déjà le plâtre et la peinture tombaient en ruine, bien que les couleurs en fussent encore fraîches. Un écriteau qui pendait de travers sur le mur du jardin annonçait qu'elle était à louer, bien meublée et à des conditions modérées. Elle était beaucoup trop ombragée, il y avait trop d'arbres, notamment 6 grands peupliers devant les fenêtres de la façade, ils étaient extrêmement mélancoliques et l'emplacement de cette habitation avait été très mal choisi. Il était facile de voir que c'était une maison que tout le monde évitait et que le village, sur lequel ma vue se porta, attiré par le clocher d'une église à la distance d'un demi-mille, la fuyait. Enfin, une maison que personne ne voulait ni louer ni acheter. La conclusion naturelle était qu'elle avait la réputation d'être hantée par les esprits. Nulle heure, parmi les 24 heures du jour et de la nuit, ne me semble aussi solennelle que celle de l'aube. Pendant l'été, je me lève souvent de très bonne heure et je me retire dans mon cabinet de travail pour faire l'ouvrage d'un jour avant le déjeuner. Dans ces occasions, je suis toujours profondément impressionné par la tranquillité et la solitude qui règnent autour de moi. En outre, il y a quelque chose de terrible à être entouré de figures familières endormies et de savoir que ceux qui nous sont le plus chers et qui nous aiment le plus ne s'inquiètent aucunement de nous dans cet état d'impassibilité qui anticipe sur cette fin mystérieuse vers laquelle nous marchons tous, la cessation de la vie, les fils de la veille cassés, le siège déserté, le livre fermé, l'occupation abandonnée sans être terminée, tout cela est l'image de la mort. La tranquillité de l'heure, la demi-teinte du jour, le froid du matin produisent la même impression et rappellent la même idée, et les objets familiers du ménage, lorsqu'ils sortent des ombres de la nuit éclairés par l'aube matinale, reprennent aussi un air de jeunesse et ressemblent à ces vieilles figures usées par les soucis ou par l'âge qui, tombées sous l'empire de la mort, ont quelque chose de la fraîcheur et de la sérénité des anciens jours. Autrefois, j'ai vu l'apparition de mon père à cette même heure. Il vivait, se portait bien, et depuis, grâce à Dieu, rien de fatal ne lui est survenu. Il est pourtant très vrai que je l'ai vu au grand jour, me tournant le dos, assis sur une chaise qui était à côté de mon lit. Il reposait, sa tête sur sa main, et je ne pouvais distinguer s'il dormait ou si cette pose était l'expression du chagrin. Étonné de le voir là, je me levai à demi sur mon lit en m'appuyant sur le bord et je le contemplai. Comme il ne faisait aucun mouvement, je lui parlai plusieurs fois et comme malgré cela il ne remuait pas, je fus alarmé et je lui posai la main sur l'épaule, du moins je me l'imaginais, il n'y avait rien. Pour toutes ces raisons et pour d'autres qui sont moins faciles à exposer, je trouve que l'aube est l'heure la plus favorable aux apparitions. À cette heure-là, toute maison sera plus ou moins hantée pour moi, et aucune ne pouvait se présenter à mon imagination plus avantageusement que celle que j'avais sous les yeux. En songeant toujours à cette maison abandonnée, je me dirigeais vers le village où je trouvais le propriétaire de la petite auberge qui sablait les premières marches de son escalier. Je commandai mon déjeuner et, tout en causant, j'abordai le sujet de la maison. « Est-elle hantée ?» lui demandai-je. L'aubergiste me regarda, secoua la tête et répondit « Je ne dis rien. »« Alors, elle est hantée ?»« Eh bien, c'est vrai !» s'écria l'aubergiste dans un accès de franchise qui ressemblait au désespoir. « Pour ma part, je ne voudrais pas y coucher. »« Et pourquoi pas ?»« Si je voulais coucher dans une maison où toutes les sonnettes carillonnent sans que personne les fasse sonner, » où toutes les portes se ferment avec violence sans que personne les pousse, où toutes sortes de pieds marchent sans qu'il y ait de bus, alors, dit l'aubergiste, je demeurerai dans cette maison. Est-ce qu'on y voit quelque chose ? L'aubergiste me regarda de nouveau, puis, avec son premier air désespéré, il appela dans la cour de l'écurie « Aïké !» Cet appel fit venir un jeune garçon aux épaules hautes, ayant une figure pleine et rouge, encadrée de cheveux roux et courts. Une grande bouche rieuse, un nez retroussé et un grand gilet à manches à raies rouges avec des boutons en nacre qui semblaient grandir sur lui et en voie, s'il n'était pas coupé, de couvrir sa tête et d'envahir ses bottes. « Ce gentleman désire qu'on lui apprenne, dit l'aubergiste, si on voit quelque chose au peuplier. » « Il y a une femme encapuchonnée avec un hibou, » dit Aïké avec empressement. « Que voulez-vous dire ?»«
Je veux dire un oiseau, monsieur. »«
Une femme encapuchonnée avec un hibou ? Mon Dieu, l'avez-vous jamais vu ?»«
J'ai vu le hibou. » »«
Et jamais la femme ?»«
Pas si nettement que le hibou, mais ils sont toujours ensemble. »«
Est-ce que personne n'a jamais vu la femme aussi nettement que le hibou ?»
« Mon Dieu, monsieur, des tas de gens !»«
Qui ?»« L'épicier d'en face qui ouvre sa boutique, par exemple ?»«
Perkins ?»«
Non, monsieur, il ne voudrait pas aller près de cet endroit pour rien au monde. »«
Oh non !» continua le garçon avec un peu d'émotion.
« Monsieur Perkins n'a pas grande intelligence, mais cependant, il n'est pas assez bête pour cela. » Ici, l'aubergiste murmura en confidence qu'il était convaincu que Perkins en savait assez pour ne pas y aller.
« Qui était, ou qui est donc, cette femme encapuchonnée avec le hibou, savez-vous ? »
« Oui, » dit Aïké pendant qu'il soulevait sa casquette d'une main et qu'il se grattait la tête de l'autre.
on prétend généralement qu'elle a été assassinée et que le hibou a crié pendant qu'on l'a tuée. Ce très bref résumé fut tout ce que je pus apprendre, excepté qu'un jeune homme aussi robuste qu'on peut l'être, après avoir vu cette femme, avait été pris d'attaques de nerfs telles qu'on avait été obligé de le garrotter. On disait aussi qu'un homme, qu'on désignait d'une manière assez obscure, comme un gaillard courageux, une espèce de vagabond borgne, qui répondait au nom de Jobai, à moins qu'on ne l'abordât sous celui de Greenwood, et dans ce cas il répondait « Pourquoi pas, et même si c'est ainsi, que vous importe, ce n'est pas votre affaire », avait rencontré la femme encapuchonnée 5 ou 6 fois. Mais ces témoins n'ont pu me renseigner matériellement, puisque le premier était en Californie, et que le dernier n'était nulle part, comme disait Aike, ce qui m'a été confirmé par l'aubergiste. Or, quoique je regarde avec une crainte silencieuse et solennelle les mystères qui suivent la mort, les preuves du grand jugement, les changements qui s'opèrent dans toutes les choses qui ont eu vie, et quoique je n'ai pas l'audace de prétendre les connaître et les approfondir, je ne pourrais concilier davantage l'idée des portes qui se ferment avec violence, des sonnettes qui carillonnent, des planches qui craquent et autres choses insignifiantes pareilles, avec la majestueuse beauté et l'harmonie qui règnent dans toutes les lois divines qu'il nous est permis d'observer et d'admirer, que je n'aurais pu, l'instant d'avant, rattacher au char du soleil levant la conversation spirite de mon compagnon de voyage. En outre, j'avais vécu dans 2 maisons hantées, toutes les deux en pays étrangers. L'une d'elles était un vieux palais italien qui avait la réputation d'être excessivement mal hanté et qui avait été 2 fois abandonné par ce motif. J'y ai vécu 8 mois, agréablement et paisiblement, bien que la maison eût une 20aine de chambres à coucher mystérieuses dont on ne se servait jamais. Il y avait aussi, près de la chambre où je couchais, une chambre hantée de première classe dans laquelle je me retirais quelquefois pour lire un certain nombre d'heures. J'insinuais tout doucement ces détails à l'aubergiste. Quant à la mauvaise réputation qu'avaient les peupliers, j'en raisonnais avec lui. Mais combien de choses ont une mauvaise réputation sans la mériter? Et combien il est facile de leur donner un mauvais renom? Ne pensait-il pas que si lui et moi persistions à chuchoter dans le village qu'un vieil ivrogne de chaudronnier du voisinage, ayant l'air d'un sorcier, s'était vendu au diable, en peu de temps, tout le monde l'accuserait d'avoir fait ce trafic aventureux? Il faut avouer que cette sage conversation ne fit aucun effet sur l'aubergiste, et je suis forcé de convenir que je n'ai jamais mieux manqué mon but. Pour couper court à cette partie de l'histoire, il faut que je dise que j'étais piqué d'honneur par ce qu'on disait de la maison hantée et que j'étais presque décidé à la prendre. Aussi, après le déjeuner, je m'en procurai les clés chez le beau-frère de Perkins, un marchand de fouets et de harnais qui tenait le bureau de poste et était sous la domination d'une femme très rigide, et je me rendis à la maison accompagné de l'aubergiste et d'Aike. Comme je m'y attendais, je la trouvais extraordinairement triste. Les ombres changeantes et mélancoliques des grands arbres qui s'y agitaient la rendaient lugubre au dernier point. Cette maison était mal située, mal construite et d'une vilaine architecture. Elle était humide, vermoulue, conservait une odeur de rat et était la triste victime de cette indescriptible décadence qui s'empare de toutes les œuvres de la main des hommes toutes les fois qu'elles ne sont pas entretenues. Les cuisines et les pièces affectées au service étaient trop grandes et trop éloignées les unes des autres. En haut et en bas, de grandes enfilades de corridors, entrecoupées par des espaces de verdure qui représentaient les chambres. Il y avait un vieux puits moisi, ayant une couche verdâtre à sa surface, caché comme une trappe meurtrière au pied de l'escalier de la cuisine, sous une double rangée de sonnettes. Sur une de ces sonnettes était écrit en lettres blanches fanées, sur un fond noir, « Maître B ». On me dit que c'était celle qui sonnait le plus. « Qui est Maître B ?» demandai-je. « Sait-on ce qu'il faisait pendant que le hibou hulait ?»« Il sonnait », répondit Aike. Je fus frappé de la précipitation et de la dextérité avec laquelle ce jeune homme jeta son bonnet de fourrure à la sonnette en la faisant tinter lui-même. C'était une grosse sonnette, rendant un son désagréable. Les autres avaient été étiquetés du nom des chambres auxquelles leur fil de fer correspondait, tels que la chambre des tableaux, la chambre à deux lits, la chambre de l'horloge, et ainsi de suite. En suivant la sonnette de Maître B jusqu'à son point de départ, je trouvai que l'on avait accordé à ce jeune homme un logement de troisième classe dans un cabinet triangulaire sous le grenier, ayant une cheminée dans un des coins de la pièce, tellement petite qu'elle ressemblait à l'escalier en spirale de ton pouce. De sorte qu'il eût fallu que Maître B fût d'une taille extrêmement exiguë pour pouvoir se chauffer à un pareil trou. Le papier d'un côté de la chambre était tombé en lambeaux, des fragments de plâtre y étaient restés attachés et obstruaient presque la porte. Il paraît que M. B, dans son état de spiritisme, se faisait toujours une loi d'arracher le papier. Ni l'aubergiste ni Aïké ne pouvaient dire pourquoi il faisait telle folie. Je ne fis pas d'autre découverte, excepté que la maison avait une énorme terrasse. Elle était assez bien meublée, quoique avec parcimonie. Une partie des meubles, peut-être bien un tiers, était aussi vieux que la maison. Le reste appartenait aux différentes époques du dernier siècle. On me dit de m'adresser à un marchand de blé à la halle de la ville afin de m'entendre au sujet du prix. Je me rendis immédiatement chez cet homme et je louai pour 6 mois. Ce fut juste au milieu d'octobre que j'en pris possession avec ma sœur qui n'est pas mariée. Je me risque à lui donner 38 ans, elle est si belle, si spirituelle, si affable. Nous avions avec nous un homme d'écurie qui était sourd, mon limier turc, de bonne, et une jeune personne appelée la fille bizarre. C'était une orpheline élevée par la Société de Saint-Laurent. J'ai quelques motifs de la mentionner la dernière, parce que c'était un mauvais choix et une acquisition désastreuse pour notre personnel. L'année s'avançait rapidement, les feuilles tombaient de bonne heure, il faisait une journée froide et humide lorsque nous prîmes possession de la maison, et sa tristesse était vraiment accablante. La cuisinière avait bon caractère, mais un esprit faible, elle fondit en larmes en voyant la cuisine, et en demandant qu'on remît sa montre d'argent à sa sœur, qui demeurait de Tuppintock Gardens, Leek's Walk, Cliffenrise, en prévision de ce qui pouvait lui arriver à cause de l'humidité. Chiqueur, la fille de service, affectait la gaieté, mais souffrait le martyr. La fille bizarre, qui n'avait jamais été à la campagne, seule était contente et faisait le projet de semer un gland dans le jardin, devant le lavoir de la cuisine, pour faire pousser un chêne. Avant la tombée de la nuit, nous avions éprouvé toutes les sortes de misères naturelles inhérentes à notre situation, aussi opposé que possible aux misères surnaturelles. Des bruits désespérants montaient en masse, comme de la fumée, des sous-sols de la maison et descendaient des étages supérieurs. Il n'y avait pas de rouleau à pâtisserie, il n'y avait pas de salamandre, ce qui ne me surprit pas, car je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait rien dans la maison et le peu qu'il y avait était cassé. Enfin, les derniers habitants avaient dû vivre comme des pourceaux. Qu'avait donc voulu dire le propriétaire en annonçant qu'il louait meublé? La fille bizarre était gaie et exemplaire au milieu de tous ses malheurs. Mais 4 heures après que les ténèbres nous eurent envahis, nous entrâmes dans une espèce de voie surnaturelle et elle avait vu des yeux et elle était prise d'une attaque de nerfs. Il était convenu entre ma sœur et moi que nous garderions strictement le silence sur ce qui pouvait nous arriver dans la maison hantée. Mon idée était, et est toujours, que lorsque Aïké avait aidé à décharger la voiture, je ne l'avais pas laissée seule un instant avec les femmes ou avec aucune d'elles. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit, la fille bizarre, et on n'a pu tirer d'elle aucune autre explication, avait vu des yeux avant 9 heures, et avant 10, on avait jeté sur elle autant de vinaigre qu'il en eût fallu pour mariner un beau saumon. Je laisse au lecteur intelligent à juger les sentiments que j'éprouvais quand, après de 10 heures et demie, la sonnette de M. B commença à carillonner de la manière la plus furieuse et que Turc hurla à tel point que toute la maison retentit de ses lamentables aboiements. J'espère que je ne me retrouverai jamais dans un état aussi peu chrétien que celui dans lequel je vécus pendant quelques semaines à l'égard de la mémoire de M. B. Que la sonnette ait été agitée, soit par les rats, les souris et les chauves-souris, soit par une cause ou une autre, ou peut-être par la réunion de toutes, je l'ignore. Mais il est certain qu'elle sonna de deux nuits à trois nuits, jusqu'à ce que j'eusse l'heureuse idée de tordre le cou à M. B, ou, pour mieux dire, de briser le fil de fer et de faire taire ainsi ce jeune homme pour toujours. Pendant ce temps, des facultés cataleptiques toujours croissantes s'étaient développées chez la fille bizarre, au point qu'elle était devenue un éclatant exemple de cette maladie incommode. Dans les circonstances les plus indifférentes, elle se raidissait comme un Guy Fawkes privé de raison. Je m'adressais aux bonnes et cherchais à leur parler d'une manière lucide en leur disant que j'avais fait repeindre la chambre de M. B et arracher le papier, que j'avais emporté la sonnette, arrêté son mouvement et que, si elle pouvait supposer que ce maudit garçon avait vécu et était mort pour ressusciter et mener une conduite qui aurait dû nécessairement lui faire connaissance avec les bouts de fouet les plus acérés, dans l'état imparfait de son existence, comment pouvait-elle penser qu'un pauvre être humain comme moi fût capable, avec ses faibles moyens, de contrarier ou de limiter les pouvoirs d'esprit dépouillés de leur enveloppe terrestre ou de n'importe quels esprits? Je dois dire que si je devins éloquent et persuasif, peut-être même un peu complaisant en leur faisant ce discours, tout cela était inutile et n'empêchait pas la fille bizarre de se roidir depuis la pointe des pieds jusqu'à la pointe de ses cheveux, en nous regardant d'un œil enflammé comme une pétrification paroissiale. Stricker aussi, la fille de service, avait un attribut de la nature la plus affligeante. Je ne puis dire si elle était d'un tempérament lymphatique ou ce qu'elle avait, mais cette jeune personne devint une véritable distillerie pour produire les larmes les plus abondantes et les plus transparentes que j'aie jamais vues. En outre de ces particularités, elles avaient une ténacité particulière, de sorte qu'elles ne tombaient pas, mais restaient suspendues sur sa figure et sur son nez. Dans cette condition, en secouant doucement la tête d'une manière lamentable, son silence m'intriguait plus que n'aurait pu le faire l'admirable Crichton dans une dissertation verbale sur une bourse pleine d'or. La cuisinière, pareillement, me couvrait de confusion comme avec un vêtement lorsqu'elle terminait doucement la séance en déclarant que cette maison l'a tuée et l'usée et en répétant avec timidité sa dernière volonté au sujet de sa montre d'argent. Quant à notre vie nocturne, la contagion du soupçon et de la crainte nous avait tous envahis. Jamais il n'y eut pareille contagion sous le soleil. Une femme encapuchonnée? D'après les récits, nous étions dans un vrai couvent de femmes encapuchonnées. Des bruits? En partageant les terreurs du sous-sol, je m'établis dans le triste parloir pour écouter et j'en entendis de si divers et de si étranges qu'il m'aurait glacé le sang si je ne l'eusse pas réchauffé en m'élançant dehors pour aller à la découverte. Si vous cherchez à écouter au milieu de la nuit, lorsque vous êtes au lit ou confortablement établi au coin de votre feu, votre imagination remplira bientôt n'importe quelle maison de bruits étranges, au point d'en trouver un pour ébranler chaque fibre de votre système nerveux. Je le répète, la contagion de la peur et du soupçon était parmi nous et jamais il n'y en eut de pareil sous la calotte des cieux. Les femmes avaient le nez écorché à l'état chronique, à force de respirer des sels, et elles étaient toujours chargées et amorcées pour faire explosion et prêtes à tomber en syncope. Les deux plus âgées détachaient la fille bizarre pour toutes les expéditions qu'on considérait comme doublement hasardeuses et elles confirmaient toujours la réputation de ses aventures en entrant en catalepsie. Lorsque la cuisinière ou Stricker montait après la tombée de la nuit, nous étions certains d'entendre aussitôt un coup frappé au plafond, et cela se répétait si souvent qu'on eût dit un militaire parcourant la maison et administrant un coup de son métier à chaque domestique qu'il rencontrait. Il était inutile de rien faire. Il était inutile de s'effrayer parfois de sa propre personne ou d'un véritable hibou et de chasser le hibou. Il était inutile de découvrir qu'en frappant par hasard certaines notes discordantes sur le piano, Turc hurlait toujours en entendant ses sons particuliers. Il était inutile de faire le radamante avec des sonnettes et si une malheureuse sonnette se mettait à carillonner sans permission, de la faire arracher et de la réduire inexorablement au silence. Il était inutile d'allumer du feu dans les cheminées, de descendre des torches dans le puits, de faire une charge furieuse dans les chambres et dans les alcôves suspectes. nous changeâmes de domestique et ce ne fut pas mieux. Les nouveaux s'enfuirent. Une nouvelle série vint et ce ne fut pas mieux. Enfin, notre confortable ménage se désorganisa tellement et devint si misérable qu'un soir je dis à ma sœur, dans un grand état d'abattement, « Patty, je commence à désespérer de trouver des gens qui veuillent rester avec nous et je pense que nous devrions renoncer à cette maison. » Ma sœur, qui est une femme de beaucoup d'intelligence, répondit « Non, John, n'y renoncez pas. Ne vous tenez pas pour battu, John. Il nous reste encore un autre moyen. » « Et quel est-il ? » lui dis-je. « John, répondit ma sœur, si nous ne sommes pas chassés de cette maison, et cela pour n'importe quelle raison, il me paraît évident, ainsi qu'à vous, que nous devons nous servir nous-mêmes et mener entièrement la maison de nos propres mains. »« Mais les domestiques, dis-je. » « N'ayons pas de domestiques, dit ma sœur hardiment. » Semblable à toutes les personnes de ma condition, il ne m'était jamais venu dans l'idée de marcher sans ces fidèles obstacles. Cette pensée me sembla si nouvelle lorsqu'elle me fut suggérée que je pris un air très indécis. « Nous savons qu'ils ne viennent ici que pour s'effrayer mutuellement et se communiquer leurs peurs, dit ma sœur. À l'exception de Bottles, observai-je d'un air pensif. Le garçon d'écurie sourd. Je le garde à mon service et je le garderai toujours comme un phénomène de taciturnité qui n'a pas son pareil en Angleterre. Assurément, John, fit ma sœur, à l'exception de Bottles. Et qu'est-ce que cela peut faire? Bottles ne parle à personne, n'entend rien, à moins qu'on ne crie très fort tout près de lui. Et quelle frayeur peut-il avoir ou communiquer? Aucune. Cela était parfaitement vrai. L'individu en question s'était constamment retiré tous les soirs pour aller se mettre au lit, dans une pièce au-dessus de la remise, en l'unique compagnie d'une fourche et d'un seau d'eau. J'avais toujours eu dans l'idée, et c'est un fait digne de remarque, que, si je fusse monté une minute après cette heure dans ce réduit sans me faire annoncer, j'aurais reçu le seau d'eau sur le corps et j'aurais été empalé avec la fourche. Aussi, Bottles n'avait jamais pris garde à tout notre vacarme. Cet homme, muet et imperturbable, s'asseyait comme si de rien n'était pour souper, pendant que Stricker était en pamoison devant lui et la fille bizarre rigide comme un marbre et profitait de la calamité générale pour mettre une pomme de terre de plus dans sa bouche et se gorger de pâté ou de beefsteak. « Ainsi donc, dit ma sœur, j'accepte Bottles. Et comme la maison est trop grande, John, et peut-être trop solitaire pour être bien entretenue par Bottles, vous et moi, je propose de chercher parmi nos amis et d'en choisir un certain nombre sur lesquels nous pourrons le plus compter comme dévouement et bonne volonté et nous formerons une colonie pendant 3 mois. Nous nous servirons les uns les autres, nous vivrons gaiement et en bonne harmonie et nous verrons ce qui adviendra. » J'étais si charmé de ma sœur que je l'embrassai sur le champ et adoptai son projet avec la plus grande ardeur. Nous étions alors au commencement de la 3e semaine de novembre. Mais nous prîmes nos mesures si vigoureusement, nous fûmes si bien secondés par les amis auxquels nous nous confiâmes, qu'il restait encore 1 semaine du mois à s'écouler lorsqu'ils vinrent joyeusement se joindre à nous et habiter la maison hantée. Mentionnons ici 2 petits changements que j'avais faits pendant que ma sœur et moi étions seuls. Il m'était venu à l'esprit qu'il était possible que Turc hurlât la nuit dans la maison parce qu'il désirait être en liberté. Je l'installai donc dans un chenil dehors, mais sans être enchaîné. J'avertis sérieusement les gens du village que tous ceux qui l'approcheraient de trop près et se trouveraient sur son chemin devaient s'attendre à être pris à la gorge. Alors, je demandai comme par hasard à Ike s'il se connaissait en fusil. « Oui, monsieur, me répondit-il, je reconnais un bon fusil dès que je le vois. » Je le priai de me faire le plaisir de passer à la maison pour examiner le mien. « C'est une bonne arme qui doit porter juste, monsieur, » dit Ike, après avoir examiné une carabine à double canon que j'ai achetée à New York il y a quelques années. « On ne peut pas s'y tromper, monsieur. »« Ike, lui dis-je, n'en parlez pas. J'ai vu quelque chose dans cette maison. »« Oui, monsieur, » murmura-t-il en ouvrant les yeux avec stupéfaction. « Vous avez vu la femme en capuchon ?»« N'ayez pas peur, » lui dis-je, « c'était une figure comme la vôtre. » « Seigneur Dieu, monsieur !» Ike, continuai-je en lui serrant la main avec bienveillance, je puis même dire affectueusement, « S'il y a quelque vérité dans ces contes de revenants, le plus grand service que je puisse vous rendre, c'est de tirer un coup de fusil sur l'apparition. Et je vous promets, par le ciel et par la terre, que je le ferai avec ce fusil si je la revois encore. » Le jeune homme me remercia et prit congé de moi avec un peu de précipitation après avoir refusé un verre de liqueur. Je lui avais fait part de mon secret parce que je n'avais jamais tout à fait oublié la casquette qu'il avait jetée à la sonnette et que j'avais remarqué, dans une autre occasion, quelque chose ressemblant à une casquette en fourrure gisant non loin de la sonnette un soir qu'elle s'était mise à carillonner. Et c'était toujours à l'heure la plus favorable aux revenants qu'il venait rassurer les bonnes. Toutefois, il ne faut pas être injuste envers Aïké. Il avait peur de la maison et croyait fermement qu'elle était hantée. Et cependant, de son côté, il aimait jouer aux fausses apparitions dès qu'il en trouvait l'occasion. Le cas de la fille bizarre était exactement le même. Elle parcourait la maison en proie à une véritable terreur. Et cependant, elle mentait affreusement et avec opiniâtreté et inventait des causes d'alarme qu'elle répandait ensuite parmi les autres et produisait elle-même beaucoup de bruit que nous entendions. J'avais toujours eu les yeux ouverts sur eux et je savais tout cela. Il est inutile de chercher à expliquer cette disposition pour l'absurde et le merveilleux. Je me contenterai de remarquer que c'est un fait généralement reconnu par tout homme intelligent qui a fait une étude approfondie de la science médico-légale et autres connaissances exactes, que c'est un état d'esprit aussi commun qu'au connu des observateurs et que c'est une des choses qu'on doit raisonnablement soupçonner tout d'abord et examiner ensuite avec soin. Mais revenons à notre société. Dès que nous fûmes rassemblés, la première chose que nous fîmes fut de tirer au sort les chambres à coucher. Ceci fait, chaque chambre, et même toute la maison, depuis la cave jusqu'au grenier, ayant été minutieusement visitée par la société tout entière, nous nous partageâmes les différents soins du ménage, comme si nous eussions été une troupe de bohémiens, que nous eussions fait une excursion en yacht, une partie de chasse ou un naufrage. Alors je racontai les vagues rumeurs qui circulaient sur la femme encapuchonnée, le hibou, M. B. et d'autres encore, plus vaporeuses et plus impalpables, qui avaient flotté dans l'air tout autour de nous depuis que nous habitions la maison. Et tout cela à propos de quelques vieilles apparitions du genre féminin qui montaient et descendaient les escaliers en ayant avec elles l'esprit d'une table ronde ou d'un âne impalpable que personne ne pouvait jamais attraper. Je croyais vraiment que nos gens du sous-sol s'étaient communiqués les uns aux autres la plupart de ces idées, dans quelque état maladif et sans le secours de la parole. Puis nous nous prîmes solennellement et mutuellement à témoin que nous étions rassemblés là ni pour tromper, ni pour être trompés, ce que nous considérions comme étant à peu près la même chose, et qu'avec un sentiment sérieux de notre responsabilité, nous serions strictement loyaux et sincères les uns envers les autres et resterions scrupuleusement dans la vérité. Nous convînmes que toute personne qui entendrait, la nuit, des bruits extraordinaires et qui désirerait remonter à leur source frapperait à ma porte et, enfin, qu'à dater de la présente heure jusqu'à la nuit des rois, c'est-à-dire à la dernière nuit des saintes fêtes de Noël, où nous serions tenus de tout divulguer pour le bien de tous, nous devions garder un silence absolu sur toutes nos découvertes individuelles, à moins que quelque provocation remarquable ne vînt nous obliger à rompre le silence. Voici le nombre des personnes qui se trouvaient réunies et le rôle qu'elles devaient remplir. Premièrement, pour me débarrasser de ma sœur et de moi, il y avait nous deux. En tirant les numéros des chambres au sort, ma sœur amena celui de sa propre chambre et moi celui de celle de M. B. Puis il y avait notre cousin germain, John Herschel, appelé ainsi d'après le grand astronome, qui est, je suppose, l'homme le plus savant en fait de télescope qui existe. Sa femme, une ravissante créature qu'il avait épousée le printemps précédent, était avec lui. Je pensais que, dans ces circonstances, c'était presque imprudent de l'avoir amené, parce qu'on ne sait pas ce que peut causer même une fausse alarme à une pareille époque. Mais je suppose qu'il connaissait mieux ses propres affaires que moi, et il faut avouer que, si elle eût été ma femme, je n'aurais jamais pu me priver de sa belle et radieuse figure et la laisser derrière moi. La chambre de l'horloge leur échut. Alfred Starling, un jeune homme de 28 ans, extrêmement agréable, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, eut la double chambre qui était la mienne ordinairement, ainsi nommée parce qu'elle avait un cabinet de toilette y attenant et deux grandes et insupportables fenêtres que tous les soins que je prenais ne pouvaient empêcher de remuer par tous les temps, qu'il y eût du vent ou qu'il n'y en eût point. Alfred est un garçon qui prétend être très lancé, mot qui signifie homme à bonne fortune, si je le comprends bien, mais qui est beaucoup trop bon et trop sensible pour cela. Et il se serait déjà distingué si son père ne lui avait pas laissé, malheureusement, une petite rente de 200 livres avec laquelle il trouve le moyen d'en dépenser 6. J'espère que son banquier sautera ou qu'il l'intéressera dans quelques spéculations où il n'obtiendra que 20%. Car je suis convaincu que, s'il pouvait se ruiner, sa fortune serait faite. Belinda Bettis, amie intime de ma sœur, la plus intelligente, la plus aimable et la plus délicieuse des filles, obtint la chambre des tableaux. Elle a le génie de la poésie réuni à une véritable ardeur pour les affaires et se lance, pour me servir de l'expression d'Alfred, dans les missions de la femme, les droits de la femme, les injustices faites à la femme et dans toutes les choses où l'on emploie la majuscule F, à tort ou à raison. C'est tout à fait digne de louange, ma chère, et le ciel vous protégera, lui dis-je le premier soir en la quittant à la porte de la chambre des tableaux. Mais ne poussez pas la chose trop loin, et quant à la nécessité que vous trouvez à élargir le cercle des occupations, que notre civilisation a jusqu'ici assignées aux femmes, n'accusez pas ces malheureux hommes qui semblent, à première vue, vous barrer le chemin, comme s'ils étaient les oppresseurs naturels de votre sexe. Croyez-moi, Belinda, ils dépensent souvent tout ce qu'ils gagnent pour leurs femmes, leurs filles, leurs mères, leurs tantes et leurs grand-mères, et vraiment, dans cette comédie, ils ne jouent pas tous le rôle du loup dans le petit chaperon rouge. Mais je fais une digression. Comme je l'ai déjà dit, Belinda occupait la chambre des tableaux. Il ne restait plus que trois autres chambres, la chambre du coin, la chambre à l'armoire et la chambre du jardin. Mon vieil ami, Jack Governor, avait suspendu son hamac, comme il disait, dans la chambre du coin. J'ai toujours considéré Jack comme le meilleur marin qui ait jamais navigué. Il a les cheveux gris, mais il est aussi bien qu'il l'était il y a 25 ans. Il est même plus beau. C'est un homme gai, bien bâti et de belle tournure. Il a de larges épaules, un franc sourire, des yeux noirs brillants et de magnifiques sourcils noirs. Je me rappelle ses sourcils lorsqu'ils étaient sous une chevelure plus foncée et ils font mieux maintenant qu'elle est argentée. Jack a été partout où flotte le drapeau qui porte son nom, Union Jack, et j'ai rencontré de ses vieux camarades dans la Méditerranée et de l'autre côté de l'Atlantique dont les figures sont devenues radieuses et dont les yeux ont brillé en entendant par hasard prononcer son nom et qui se sont écriés « Vous connaissez Jack Governor ?» Alors vous connaissez le roi des hommes. C'est bien vrai. Jack paraît si incontestablement un officier de marine qu'en le voyant sortir de la cahute de neige d'un esquimau couvert d'une peau de phoque, on serait vaguement persuadé qu'il est en grande tenue d'officier de marine. Autrefois, Jack avait jeté ses yeux clairs et brillants sur ma sœur. Cependant, il advint qu'il épousa une autre femme et qu'il l'emmena dans l'Amérique du Sud où elle mourut. Tout ceci s'est passé il y a une douzaine d'années au plus. Il avait apporté avec lui, dans notre maison hantée, un petit baril de bœuf salé, étant persuadé que tout bœuf salé qu'il ne fait pas mariner lui-même n'est pas mangeable, et lorsqu'il va à Londres, il en met invariablement un morceau dans sa valise. De sa propre autorité, il avait amené avec lui Nat Beaver, un de ses vieux camarades, capitaine d'un vaisseau marchand. Monsieur Beaver, avec une épaisse figure de bois et un corps aussi raide que s'il eût été taillé dans le même bloc, montrait de l'intelligence et avait une grande expérience de la mer. Parfois, il tombait dans un état nerveux et étrange, qui était sans doute le résultat de quelque ancienne maladie, mais cela durait rarement plusieurs minutes. Il occupait la chambre de l'armoire et était près de Monsieur Underay, mon solliciteur et mon ami, qui était venu seulement en amateur, et voulait pousser la chose jusqu'au bout, comme il disait. Il jouait mieux le whist, que tous les gens de loi inscrits sur l'annuaire judiciaire, depuis la première page jusqu'à la dernière. Je ne fus jamais plus heureux de ma vie, et je crois que c'était le sentiment général parmi nous. Jack Governor, qui est toujours un homme merveilleux de ressources, était chef de cuisine et faisait quelques-uns des meilleurs plats que j'ai jamais mangés, en y comprenant des conserves et des salaisons impossibles. Ma sœur était pâtissière et confiseuse. Starling et moi étions chacun à notre tour aide de cuisine et, dans de certaines circonstances, le chef obligeait M. Beaver à l'aider. Nous prenions beaucoup de plaisir et d'exercice en dehors de la maison, mais rien n'était négligé en dedans. Il n'y avait ni mauvaise humeur ni malentendu parmi nous, et nos soirées étaient si agréables que nous avions une bonne raison pour avoir de la répugnance à aller nous coucher. Dans le commencement, nous éprouvâmes quelques alarmes la nuit. La première, je fus réveillé par Jack qui entra dans ma chambre avec la plus étonnante lanterne de vaisseau à la main, ressemblant aux ouïes de quelques monstres marins. Il m'annonça qu'il allait monter au mât de misaine pour enlever la girouette. C'était par une soirée orageuse et je lui fis des représentations. Mais Jack me fit observer qu'elle produisait un bruit sinistre ressemblant à un cri de désespoir et que, si cela n'était pas fait au plus vite, quelqu'un hélerait en revenant et croirait l'avoir vu. Alors, accompagné de M. Beaver, nous montâmes ce sommet de la maison. Je pouvais à peine me tenir tant il faisait de vent, et là, Jack avec sa lanterne et M. Beaver toujours le suivant, grimpa jusqu'à la coupole, qui était à peu près à 24 pieds de hauteur, sans se tenir à rien. Il enleva avec sang-froid la girouette, ils étaient tous deux si contents et si joyeux malgré le vent et la hauteur que je crus qu'ils ne consentiraient jamais à descendre. Un autre soir, ils montèrent encore sur le toit et enlevèrent une cheminée. Un troisième, ils coupèrent une gouttière qui sanglotait en gargouillant. Un quatrième, ils découvrirent encore quelque chose et, plusieurs fois, ils se laissèrent glisser simultanément des croisées de leur chambre à coucher, en se suspendant à la courte pointe de leur lit pour aller inspecter quelque objet mystérieux qu'ils s'imaginaient apercevoir dans le jardin. L'engagement que nous avions pris fut tenu fidèlement et personne ne révéla ce qui lui était arrivé. Tout ce que nous savions, c'est que si la chambre de l'un de nous était hantée, il ne s'en portait pas plus mal. Noël vint et nous fîmes bonne chère pour le fêter dignement. Toute la maison avait été forcée de mettre la main à la pâte pour faire le pudding et, la nuit des rois arrivée, notre provision d'émincée était si grande qu'elle eût pu durer jusqu'à la fin de nos jours. Quant à notre gâteau, sa seule vue était splendide. Ce fut alors que, nous trouvant réunis autour de la table près d'un bon feu, je rappelai les conventions de notre traité et évoquai premièrement l'esprit de la chambre de l'horloge.